Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, alors pour l'instant, Philippe Chevrier, Grégoire Le Ménager, Laurent Nunez, nous l'attendons d'une minute à l'autre. À notre sommaire ce soir, on devrait être quatre à en parler. Floride de Lauren Groff aux éditions de l'Olivier, Dites-lui que je l'aime de Clémentine Autain chez Grasset, Je ne sais rien d'elle de Philippe Mézescaz aux éditions Marest, et puis un coup de cœur de Philippe Chevrier que je partagerai tout à fait pour Dracula et autres écrits vampiriques dans la bibliothèque de la Pléiade. Nous ouvrons cette dispute avec Floride de Lauren Groff, publiée aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Karine Chichereau. C'est avec son livre précédent, Les Furies, que l'auteure américaine a connu un immense succès mondial. Elle revient avec un recueil de nouvelles dont la photo de couverture donne le ton. Le Sunny State de Floride peut aussi être recouvert de nuages très noirs et la vie des personnages de Groff a se colorer aussi, bien souvent, de noir. Alors, un tour de table qui ne sera pas complet, en l'absence de Laurent Nunez, mais qui va me donner quand même une indication sur la critique et le point de vue que vous développerez dans un instant. Philippe Chevrier.
Alors, moi, j'étais saisi par ces nouvelles moites et glacées, en même temps, d'un suc luxuriant et vénéneux, portrait féminin d'une Amérique à la dérive.
Grégoire Le Ménager.
J'ai lu des contes cruels qui sont tellement peuplés de serpents, d'alligators et même de blattes que parfois j'ai cru souffrir de délirium tremens. Mais globalement, quand même, je dois reconnaître que ces 11 variations sur la fin du monde sont assez remarquables.
Mmh. Alors je pourrais me livrer à une imitation de Laurent Nunez en son absence. Il dirait, vous savez, Roland Barthes écrivait... vous savez, dans La Recherche, il y a ce moment où...
Mais maîtrisez Laurent... bien, vous savez.
Hein, oh bah, ça c'est lu Laurent Nunez dans le texte. Bon, on va plutôt écouter un extrait de ce recueil de nouvelles avec une lecture qui va nous venir par Joséphine Dumoulin.
Toute la nuit, les fruits des palmiers qui s'abattent sur le toit l'ont empêchée de dormir. Et quand elle s'est réveillée dans le soleil éclatant qui entrait par la fenêtre, elle en a eu assez. Adieu tout ça, s'est-elle mise à chanter en déménageant le peu qu'elle possédait dans le break. La guitare de son ex, le matériel de camping qu'ils avaient acheté en première année de master, durant la seule nuit qu'ils avaient passée dans le parc de Suwanee, pétrifiée par les vagissements des alligators mâles. Une caisse de livres. Adieu aux centaines d'autres qu'elle a laissées ranger contre les murs. Aucune valeur, lui a dit l'homme à qui elle avait essayé de les vendre. Adieu les montagnes de dettes dont elle a essayé péniblement de s'extraire. Adieu à la vie d'expulsion orange. Adieu au désir. Désormais, elle sera vide car elle a choisi de perdre. L'appartement était une coquille, polie jusqu'à la nacre. Elle a poussé un profond soupir en sortant sur la véranda, a éprouvé un très léger vertige en chassant le chat pour le mettre dehors. « Oh, tout ira bien pour toi », lui a-t-elle dit. Et elle a caressé les poils soyeux entre les oreilles, mais en un éclair, il l'a griffée. Elle a regardé le dos de sa main, où lentement perlait le sang le long des quatre traces, mais le chat avait déjà disparu. Lui aussi, il était parti.
Lui aussi, il était parti. Et Laurent Nunez, lui, il est arrivé.
Bonsoir.
Vous avez une panne de gyropode, peut-être?
C'est grâce à la monoroue que je suis venu. Mon taxi était bloqué dans les bouchons. Pas très intéressant.
Je crois que vous dépassez qu'en roue, moi. Donc, je suis extrêmement déçu par cette information. Ça ne va pas nous éloigner de Lauren Groff et de Floride, dont on a commencé un petit peu à parler sans vous. Laurent Nunez, maintenant, il s'agit de développer. Philippe Chevrier.
Alors, je suis content que cette Joséphine ait choisi cet extrait de la nouvelle qui est ma préférée au-dessus, en dessous, et qui en fait résume en quelques pages une vision de cette Amérique très cruelle, très dure. On est effectivement en Floride, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui, jeune prof, qui va se retrouver en fait SDF à vagabonder. Et c'est raconté de façon très concrète, très encore une fois très très âpre. On la retrouve dans des circonstances. Bon, je vais pas raconter toute la nouvelle, mais elle, à un moment donné, elle est dans une sorte de camp où se retrouvent les réfugiés. Elle se retrouve à garder des enfants. Elle essaye d'assister une femme qui est obligée de se livrer à la prostitution pour vivre. On a vraiment un manuel de survie dans l'Amérique d'aujourd'hui qui est assez étonnant. Et quand on voit le titre Floride, bon, évidemment, c'est toute l'ironie du titre puisqu'on s'imagine. Bien sûr, nous, les Français, les plages de Miami, qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est en revanche quand même dans la Floride avec ce que disait Grégoire sur l'aspect les serpents, le venimeux. Il y a beaucoup de il y a cette moiteur, il y a ces clichés qui sont en fait plus que des clichés, une réalité qui est cette nature luxuriante, cette nature qui bouffe tout. Mais en même temps, on retrouve donc des personnages en proie à des problèmes bien d'aujourd'hui et à des dérives existentielles qui sont passionnantes. Il y a une violence très forte, hein. Qu'on soit dans celle où on retrouve un personnage dont le père est éleveur de serpents et c'est
horrible.
Et un naturaliste qui en fait collectionne les serpents et qui est pas du tout un écolo sympathique.
Ah, non.
Ou alors dans cette histoire des deux petites filles laissées sur une île toute seule dans un bungalow sordide sans rien à manger. C'est vraiment assez âpre et assez dur. Et on a souvent derrière des portraits de femmes qui sont à la fois des femmes à la dérive et en même temps qui essayent de maîtriser leur destin, c'est quand même assez fort d'avoir tous ces aspects-là dans 11 nouvelles, dont je tiens à préciser quand même qu'il y en a 3 qui sont en dehors de la Floride, puisqu'il y en a 2 qui se passent en France, c'est pas les meilleures, et une qui se passe à Salvador de Bahia, pardon.
C'est bien.
Grégoire Leménager, premier regard sur ce Floride de Lauren Groff.
Bon, je souscris à peu près à ce qu'a dit le camarade Chevillier. Effectivement, la nouvelle sur la femme qui devient SDF, quand on la résume comme ça, on dit « Oh, c'est sordide ». Et elle est vraiment très belle. Et elle est très belle aussi parce qu'il y a quelque chose de très linéaire dans le délitement. Le motif du délitement, il court partout dans ce livre. Là, il est traité d'une manière très linéaire qui fait qu'on s'y retrouve. Dans certaines autres nouvelles, il y a quelque chose d'extrêmement luxuriant avec ce bestiaire omniprésent qui est presque traité sur le mode de la caricature et qui donne un aspect très très inquiétant, très très vénéneux à tout ce qui se passe et à tous les éléments de décor. Cette luxuriance, moi elle m'a un peu embarrassé. Je disais en rigolant que j'avais éprouvé le sentiment de souffrir de délirium tremens. Il y a quelques nouvelles dans lesquelles il faut vraiment s'accrocher parce que non seulement il y a ce côté très touffu de la langue qui essaye de restituer la moiteur, la présence des animaux hostiles, etc. Mais en plus, dans la narration, quelquefois, il y a quelque chose qui n'est pas du tout linéaire, avec des allers-retours en permanence entre le présent de la narration et différents épisodes du passé. Ça se télescope, quelquefois on est dans la tête d'un personnage, et ça vaut la peine de s'accrocher, mais quelquefois c'est un peu, quand on est un petit peu fatigué par la saison, quelquefois les mots dansent un peu sous nos yeux, quoi. On perd un peu ces marques. Pour autant, il n'y a pas deux nouvelles qui sont exactement les mêmes, et pour autant, il y a une cohérence extrême qui se dégage de ce livre qui est vraiment frappante. Enfin, je parlais de ce motif du délitement qu'on retrouve partout, ce sentiment de fin du monde qu'éprouvent tous les personnages. Et à un moment, il y a un des personnages qui cite un poème de Robert Frost qui dit « Certains disent que le monde finira dans les flammes, d'autres dans la glace. » Alors, quelquefois, on aimerait bien avoir un peu de glace parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très moite et on aimerait bien se rafraîchir un peu. Mais il y a vraiment cette impression qui est tressée alors avec des considérations sociales sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais aussi avec évidemment la catastrophe écologique qui vient et le motif de délitement peut être traité quelquefois à l'intérieur d'un couple, quelquefois ça concerne une maison, enfin tout se dégrade comme ça, tout se déglingue et c'est vrai que c'est fait d'une manière quelquefois un peu touffue, un peu opaque, mais en tout cas très forte. Enfin, ça laisse des impressions fortes de lecture, je trouve.
Mais à l'inverse de ce que vous disiez sur les allers-retours passé-présent et parfois la question de la de l'opacité. Je vais vous donner la parole à Laurent Nunez, je vous laisse juste reprendre votre souffle. Il y a cette nouvelle qu'évoquait Philippe Chevalier tout à l'heure avec ce père donc, qui collecte des serpents dans des buts lucratifs, dans un but lucratif, on va dire. Et, d'ailleurs, au passage, j'adore les titres des nouvelles. Celle-ci s'appelle « Dans les coins imaginaires de la Terre, virgule, qui est ronde ?» Et en 25 pages, alors que moi, je ne m'y attendais pas du tout, on commence par cette histoire vue du point de vue du petit garçon, hein, de ce père absolument épouvantable, avec encore une figure de mère vraiment... à laquelle la vie n'a pas fait de cadeau. Mais en fait, en 25 pages, on va avoir toute une vie. Et il y a une accélération. Elle est capable aussi de complètement nous prendre à contre-pied. Au lieu d'être dans une sorte de ressassement de miniature, là, on a un roman en 25 pages. Et c'est tout à fait saisissant aussi.
Mais ça donne parfois une densité qui est un peu indigeste aussi, je trouve, sur certaines nouvelles. Mais
bon, il ne faut peut-être pas les lire à la suite. Bon, j'y reviendrai. Laurent Nunez, sur Floride, de Lauren Groff.
Moi, je connaissais pas Lauren Groff. J'avais pas écouté les conseils de Barack Obama initialement. Mais...
Ça m'étonne de vous. Oui, d'habitude, Barack vous
mais,
conseille.
Qui est pourtant un bon lecteur, il paraît. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est que au début, ce livre je m'a plu rien qu'avec le titre. C'est-à-dire que comme c'est un recueil de nouvelles, et je trouve qu'il est intéressant d'avoir. Et j'ai cru initialement qu'il y avait une sorte d'unité de lieu. Qui pouvait structurer le tout. Puis j'ai découvert que non, parfois ça se passe ailleurs, notamment en France, dans une très belle nouvelle qui clôt le volume, Ypres. Et j'étais un peu déçu, finalement, parce que du coup, mon unité de lieu était défaite. Et en fait, vous l'avez dit, s'il n'y a plus d'unité de lieu, c'est qu'en fait, il y a autre chose qui reste. Donc j'étais bien saut d'espérer de croire qu'une unité de lieu suffisait à construire un recueil. Il y a des choses assez belles. Moi, je suis tellement je suis assez hermétique, je vous l'avoue, au livre. Vous l'avez dit, on a l'impression que c'est un livre qui est à la fois extrêmement calibré, c'est-à-dire qui tape sur les sujets actuels, extrêmement contemporains. Le portrait de femme, le délitement, ce que nous on appelle visiblement en France la collapsologie, c'est-à-dire vraiment l'effondrement. Mmh. L'effondrement du monde, l'effondrement de tout, les questions environnementales.
C'est moi, à ça que vous êtes allergique?
Disons que j'en soupe suffisamment à travers les médias pour qu'en art, je cherche autre chose.
D'accord.
Et heureusement, et du coup, vous devinez que la nouvelle que je préfère, c'est celle où on parle des écrivains français, de Maupassant et de Flaubert. Ça crée une unité, mais et qui, à mon avis, ça se termine sur ça, parce que c'est aussi une des possibilités de sauver le monde. Voilà, il faut sortir de la Floride, sortir des problèmes contingents et à la fois extrêmement importants. J'annule pas ça, mais voilà, pour plonger ailleurs, pour plonger dans une autre culture, ça me fait plaisir ce recueil.
À propos d'écrivains français, enfin ou d'auteurs français, une question à vous poser, parce qu'il y a vraiment une chose que je n'ai pas compris dans la nouvelle. En effet, au-dessous, il y a cette phrase ici, Derrida, et Derrida est en italique. Derrida n'était qu'un mot de français désignant l'arrière-train. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Ah, bon, je vois que, voilà, vous faites signe que non. Je me dis, mais Derrida, j'essaie de le prononcer à la floridienne, mais ça ne prend pas. Bon.
En fait, à mon avis, moi, c'est qu'en fait, l'américain confond Derrida et derrière. Le derrière.
Voilà.
Ah, Derrida. Voilà. Derrida. Ah, d'accord. C'est un jeu de mots Derrida.
Il faut demander traductrice.
Vous avez bien fait d'arriver finalement, Laurent Nunez. Mais non, il y a une météorologie des sentiments, moi, qui me passionne assez. Je trouve que la traduction, en tout cas, de Karine Chichereau est remarquable parce que j'imagine que la langue de Lauren Groff, dans sa version originale, l'est tout autant. Mais en tout cas, il y a un travail stylistique qui, moi, me touche à chaque instant. Et puis, il y a cette idée, oui, je parlais tout à l'heure de cette couverture fort bien choisie des éditions d'Olivier, parce que la Floride, le Sunny State, l'état ensoleillé, là, nous est présenté avec une tornade qui arrive et un ciel très gris. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu grâce à Grégoire Leménager, on va en parler bientôt ensemble, le livre Malamorte d'Antoine Albertini, qui nous montre une Corse qui n'a rien à voir avec la Corse de carte postale, ni d'ailleurs du banditisme, ni surtout des plages, du farniente et du beau temps. Et il y a quelque chose de cela aussi chez Lauren Groff, cette Floride, non pas l'envers du décor, mais peut-être une réalité bien plus grande que ce que l'on soupçonne. Philippe Chevillier.
Oui, et puis alors quand elle prend un thème, c'est l'œil du cyclone, donc une femme dans sa maison, On peut penser effectivement que ça va être un peu convenu. Et moi, je trouve que la façon dont cette femme seule dans la maison fait venir ses fantômes, c'est de son petit ami, de se suicider, de son ancien compagnon, de son père, c'est vraiment une très belle nouvelle de fantôme, en fait, et presque fantastique. Esprit aussi un peu gothique et fantastique qu'on retrouverait dans celui qui je crois que c'est Le Chasseur de fleurs, où là, une femme qui est un peu aussi à la dérive avec un mari avec qui elle a du mal à communiquer, se plonge dans les livres et dans le livre d'un naturaliste qui du 18e siècle et qui va à un moment dire la Floride est érotique. Donc c'est de se convaincre de ça. Et c'est un soir d'Halloween. Et donc à Halloween, dans cette moiteur, ça, tout d'un coup, ça fait dérailler un peu la nouvelle. Et je pense que dans ce livre qui était Les Furies, qui avait vraiment...
qu'il
avait révélé, qui avait un côté best-seller peut-être très construit, on s'aperçoit à travers cette nouvelle qui est aussi sans doute très construite qu'elle a quelque chose de vraiment une puissance de réflexion, d'écriture et même quelque chose d'assez cruel dans sa façon d'écrire qui est intéressante, que c'est vraiment un écrivain qui a des choses à dire, quoi.
Laurent Nunez.
Oui, pour Chasseur de fleurs, c'est ça qui me plaît, par exemple, c'est que cette femme qui en plein Halloween est un peu déprimée, qui va plonger dans ce recueil, pour moi, par exemple, c'est, et qui s'appelle Chasseur de fleurs, c'est typiquement, pour moi, c'est une reprise de Mrs. Dalloway, parce que c'est la même chose, la fête, la déprime, et l'incipit qui est Mrs. Dalloway dit qu'elle irait elle-même chercher des fleurs. Mmh. Donc voilà, c'est ça aussi un écrivain, c'est quelqu'un qui joue entre l'intertexte, c'est-à-dire entre la bibliothèque avec un B majuscule, quoi, et avec les référents contemporains et qui arrive à les mixer. Et du coup, il y a plusieurs strates de lecture.
Grégoire Le Ménager. Mais vous n'êtes pas obligé, hein.
Non, je pensais à quelque chose qui était qu'il y a cette idée de montrer la Floride telle qu'elle n'est pas sur les cartes postales. Et pour autant, il faut bien que nos auditeurs comprennent ça. Il y a clairement pas d'intention réaliste dans le livre. On bascule vraiment. Vous avez parlé de gothique, de fantômes. Il y a une inquiétante étrangeté qui se propage partout. Et ça, sans qu'on bascule dans le fantastique pur. Et ça, c'est vrai que son écriture a un pouvoir de suggestion qui est très très fort. Et qui, pour moi, sur certaines nouvelles, la conduit vers une forme d'écriture un peu trop baroque et pour laquelle il faut avoir beaucoup d'appétit. C'est vrai que celles que je préfère, ce sont la femme qui devient la prof de fac qui devient SDF ou la fille là qui a la trentaine et qui deux semaines par an va à Salvador de Bahia pour coucher avec un maximum de garçons parce que le reste de l'année elle s'occupe de sa pauvre mère malade la nouvelle se termine de manière assez sordide, mais celle-ci elle a quelque chose de très linéaire, de très resserré que moi je préfère en fait.
Vous voulez dire un dernier mot, Philippe
Chevalier? Oui, puisqu'on va parler pas mal de mère dans la suite de l'émission.
C'est le fil rouge.
Il y a cette mère qui est dans le... dans cette nouvelle où cette femme se retrouve avec ses deux fils, le mari repartant travailler dans un endroit dans la forêt avec une panthère qui est censée rôder.
C'est la bête dans la jungle.
Et c'est vrai qu'il y a un sentiment, cette femme qui, par rapport à sa famille, par rapport à la nature, tout le cosmos est un peu bougé comme ça, un tout petit peu. Et c'est très étrange, c'est très troublant. Et comment la mère établit aussi, les relations de la mère avec ses deux enfants, je trouve ça très troublant et très intéressant et très touchant.
Ce qui fait écho d'ailleurs à la première nouvelle, qui est cette femme mère de famille, qui a aussi deux enfants, mais qui n'en pouvant plus sort toutes les nuits courir plutôt que de hurler. Mais déjà, il y a un détachement, une sorte de sortie du corps, puisque son âme, elle reste près de ses enfants à la choyer, alors qu'elle est en train de faire son jogging exutoire toutes les nuits dans cette zone pavillonnaire. Enfin, je trouve que ça commence bien.
Oui, avec une image presque à la Fellini, où il y a un arbre qui apparaît illuminé depuis peu. C'est vrai que c'est une jolie introduction.
Et avec à la fin cette terrible vérité, dit-elle, même si elle n'apporte aucun réconfort, mais si vous regardez la lune chaque nuit assez longtemps, comme je l'ai fait, vous verrez que les vieux dessins animés ont raison. La lune, en réalité, rit. Et il y a une façon de nous renvoyer à la vanité de notre condition humaine aussi, à cause de cette nature, de la présence de la lune, de tout ça, qui donne sa cohérence au livre.
Bon, Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, hein, vous avez compris, hein, ce Floride de Lauren Groff, recueil de nouvelles publié aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Karine Chichereau. À suivre dans cette dispute des livres de Clémentine Autain, de Philippe Mézescaz et un recueil de Pléiade sur les écrits vampiriques.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec Dites-lui que je l'aime de Clémentine Autain, publié chez Grasset. Alors on connaît bien depuis bientôt 20 ans la verve de Clémentine Autain qui débuta sa carrière politique en devenant adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë. C'était en 2001, ça ne nous rajeunit pas. Elle est aujourd'hui députée de la France Insoumise et d'un autre côté, les cinéphiles, eux, n'ont jamais oublié qu'elle est la fille de Dominique Lafin et du chanteur Yvan Dautin. Dominique Lafin, jeune mère de Clémentine, décide de changer de vie à 22 ans et veut devenir actrice. Elle le sera. Elle tournera 28 films en 9 ans de carrière. Une carrière brutalement interrompue par une crise cardiaque. Elle meurt quelques jours avant son 33e anniversaire. Cette mère, dont Clémentine Autain a si longtemps voulu occulter le souvenir, elle s'y confronte dans ce livre en parlant de leur relation. Un premier tour de table rapide pour résumer vos impressions sur ce livre avant de développer, Grégoire Leménager.
Eh bien, Dites-lui que je l'aime est un livre sensible, délicat, intéressant, émouvant, intimiste et digne à la fois. Donc dites-vous bien que je l'aime beaucoup ce livre.
Laurent Nunez.
Oui, c'est tout sauf le livre d'une femme politique et le fait qu'on l'ait programmé ici signifie beaucoup, je crois.
Philippe Chevillier.
Ben c'est pour moi le beau récit intime et d'une grande clarté, des retrouvailles d'une femme apaisée avec la mère qui l'a abandonnée. Voilà. Et j'ai bien aimé ce livre aussi.
Une lecture, un extrait de ce texte par Lucille Como.
L'autre jour, ma fille m'a demandé « On pourra la voir, ta maman, quand elle ne sera plus morte ?» Elle est encore petite, tu sais. Alors je lui ai expliqué que quand on est mort, on ne revit plus. Mais elle a insisté, reformulé la question. « Et pourquoi ton cœur s'est arrêté ? Et pourquoi tu es morte dans ta salle de bain ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Mourir à 33 ans, ce n'est pas une vie. Alors elle se demande comment c'est possible. Et mes explications, certes sommaires, ne lui suffisaient pas. À son âge, elle n'a pas conscience de la mort, mais elle a peut-être senti dans ma réponse mon incapacité à te faire vivre, à parler de toi, à penser à toi. Les enfants sont des éponges qui fragilisent l'étanchéité des émotions. J'avais tout emmuré, mais tu réapparais sans cesse, et par ma fille maintenant, qui semble me dire « Pourquoi tu ne veux pas que ta maman revive ? Pourquoi tu ne veux pas me la montrer ?»
Dites-lui que je l'aime, c'est le titre de ce livre de Clémentine Autain dont nous parlons maintenant. Grégoire Leménager.
Écoutez, oui, moi, ce livre, j'ai vraiment été très, très touché par lui. D'abord, j'ai été intéressé parce que il parle de Dominique Lafin, qui est un personnage, une sorte d'étoile filante du cinéma français, un peu comme on parle d'un Patrick Devers au féminin, ce qui est une façon un peu raccourcie de résumer sa destinée tragique et aussi de dire qu'elle crevait l'écran. Et cette étoile filante, Clémentine Autain réussit à la faire briller très fort, je trouve, au fil du livre, et de plus en plus fort. À la fin de ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de revoir les quelques films dans lesquels est apparue sa mère. Donc déjà, il y a cet aspect de document, je dirais, qui est intéressant. Et puis ensuite, il y a évidemment un deuxième niveau de lecture, c'est que la personne qui écrit ce livre n'est pas n'importe qui, c'est sa fille. Il se trouve par ailleurs que c'est Clémentine Autain qui est un personnage public et qui a
qui affiche un tempérament assez ferme, assez net, quelquefois pas extrêmement chaleureux. Enfin, on sent que c'est et il y a beaucoup de clés de sa personnalité aussi qui apparaissent dans le livre. Mais surtout, il y a évidemment la relation de ce qu'a très bien dit Chevillé il y a 5 minutes, la relation d'une fille qui essaye de se réconcilier sur le tard avec cette mère qu'il a quand même maltraitée, quoi. Enfin, il faut dire les choses. Et Clémentine Autain a un sens de la scène pour nous raconter les dimanches matins où sa mère, ouais, après une nuit de beuverie et de fiesta, traînait sa malheureuse fille dans les brasseries qui étaient ouvertes pour aller boire des bières, soi-disant, parce que boire des bières, c'était la meilleure manière de soigner sa gueule de bois.
Les fameux dimanches du Vépler.
Voilà. Et Clémentine Autain dit que même encore aujourd'hui, l'odeur de la bière, là, ouais, c'est quelque chose qui la dégoûte. On sent à quel point tout ça l'a marqué dans sa chair et tout ça. Et ce que je trouve très fort de la part de Clémentine Autain, c'est qu'elle réussit à raconter cette enfance-là et la destinée tragique de sa mère sans jamais tomber dans le misérabilisme, avec une espèce de dignité, de pudeur, de retenue assez remarquable. Elle arrive à poser toutes les questions qu'elle se formule au sujet de la mort de sa mère. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce que c'est un accident? On l'a retrouvée morte dans sa baignoire. Enfin, c'est des questions qui la travaillent naturellement, qu'elle a réprimées pendant 20 ans et qui ressurgissent là et qui prennent la forme de ce livre qui est très bref, très concis, mais très très pudique et qui laisse sa part d'énigme et de mystère aussi à sa mère, je trouve. Enfin, voilà, je m'arrête là pour l'instant, mais
Pour l'instant. Laurent Nunez, sur ce livre de Clémentine Autain.
Oui, c'est un livre qui est vraiment d'une pudeur assez incroyable. Pourtant, le sujet, c'est quand même pas facile. En effet, une fille qui parle de sa mère.
Ça a donné récemment quelques livres qui m'ont épouvanté.
Mais voilà,
vraiment où je les ai trouvés dégueulasses. Je ne citerai pas de nom,
alors,
certains.
Il y en a un horrible qui était, c'est un roman, qui était Beau Jungles, mais qui parlait de ça, de l'union. Mais il y en a un très beau qui était Fugitif parce que Rennes.
Oui, c'est vrai.
Voilà, qui racontait ici.
Horrible, Beau Jungles, faut peut-être pas exagérer quand
même. Non, on ne parlons pas dessus, là. Mais alors, ce qui est intéressant, vous savez, c'est que, on l'a écouté à la voix de Lucide Comeau, c'est un jeu qui s'adresse à un tu. C'est ça, la structure initiale. Ouais. C'est une fille. Une femme, il faudrait dire, parce qu'on a l'impression que c'est encore la petite fille qui parle, mais non, c'est vraiment une femme cette fois qui parle à sa mère. Vous savez ce qu'on appelle la mère cadette, on appelle ça quand les filles dépassent l'âge de leur mère décédée. Et tout d'un coup, et normalement, entre un jeu et un tu, nous, on devrait être des voyeurs. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire là. Eh bien non, il n'y a aucun voyeurisme dans ce livre. Je ne sais pas comment il y arrive, est-ce que c'est à cause des chapitres un peu courts, en effet, on l'a dit. Ces chapitres où elle raconte son enfance, ça fait penser, ils sont tellement courts, moi j'ai pensé tout de suite, vous savez, à la main qu'on enlève vite du feu dès que ça brûle, c'est assez bien fait. Elle n'épargne personne, elle ne s'épargne pas, elle ne parle pas à sa mère, et pourtant on ressort de là avec, c'est-à-dire toutes les strates de la pensée de la mère sont là. Elle apparaît vraiment sous un jour très très humain, c'est-à-dire on le voit, elle a été une mère épouvantable, serait peut-être un mot très fort. En tout cas, elle n'a pas été dans...
Elle n'était pas bien occupée de sa fille.
Voilà. Et en fait, on découvre la fragilité qu'elle a, on découvre ses problèmes avec l'alcool, qui sont clairs, qui sont évidents. C'est un portrait. Et du coup, le portrait dessine aussi le portrait du peintre. On sent, on comprend clairement. Vous avez parlé de la froideur de Clémentine Autain, ou en tout cas, Clémentine Autain, elle le dit dans ce livre, tout est clair, après un chapitre où elle explique qu'elle n'a pas hérité, qu'elle n'hérite de rien, elle dit de sa mère, parce que sinon elle aurait dû être débiteur. Et elle le dit, d'ailleurs, tout le physique, l'une est brune, l'autre est blonde, l'autre est grande, l'autre est petite, etc. C'est vraiment le négatif. En tout cas, c'est comme ça, visiblement, dans le livre, que ça se construit. Et du coup, voilà, on a un double portrait où il y a, mais vraiment, de l'amour qui se dégage. C'est étrange, hein, de dire qu'il y a des phrases qui arrivent à montrer cet amour qu'a une femme adulte pour le portrait, enfin pour sa mère. Et voilà, et le dernier chapitre où elle arrive enfin à regarder un film d'elle. Voilà, annonce une paix intérieure dans le livre, qu'on espère réel, mais qui vraiment clôt parfaitement le livre.
Philippe Chevillier, à présent, sur ce livre, Dites-lui que je l'aime.
Oui, ce qui est amusant, c'est quand on le lit, mais ce que dit Laurent, mais c'est vrai qu'on va oublier que c'est une femme politique, mais on ne peut pas l'oublier complètement quand on l'ouvre. Et c'est vrai qu'on a cette image d'une femme politique qui est souvent psychorigide dans ses positions. Et on a le sentiment petit à petit que.
Elle a des valeurs, ils disent.
Comment ?
Elle a des valeurs.
C'est voilà.
C'est deux façons de dire la même chose, c'est ça.
Et il y a une, je ne dirais pas une inhumanisation, parce que ça serait péjoratif un peu fort, je ne sais pas comment le dire. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on sent qu'il y a un aspect de la personne qui se bâtit. Et ce que je trouve intéressant et beau dans le livre, c'est qu'elle aurait pu verser dans un épanchement qui serait genre casser complètement l'image, et parce qu'on se laisse emporter par une écriture, puisqu'il y a un côté cathartique dans ce roman de vouloir se réconcilier. Elle aurait pu tomber dans le pathos, justement, et elle ne tombe pas, et je pense qu'elle reste elle-même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que vous disiez sur le fait qu'on a le portrait du peintre autant que le portrait de l'actrice. Donc moi, c'est passionnant parce que, effectivement, Dominique Lafin, j'avais envie de la reconnaître. C'est vrai qu'au départ, c'est pas très sympathique comment elle apparaît, et puis petit à petit, quand s'inverse le portrait, quand tout d'un coup, elle, par des coïncidences, elle va se dire maintenant, il faut que je règle mes comptes, il faut que je vois, et qu'on commence à lui dire, mais finalement, cette mère, elle vous aimait, et qu'elle commence à l'aimer. Donc, le portrait de Dominique Lafin qui se corrige, et le portrait de Clémentine Autain, qui reste cohérente tout le temps. C'est-à-dire que je trouve que même dans la conception du livre, il y a un côté dialectique qui est très, bon, pourquoi je l'ai détesté, pourquoi je l'aime maintenant, mais sans que ça apparaisse comme un manifeste politique ni rien. Mais on a une émotion qui se produit. Simplement, il y a une clarté, une limpidité dans l'exposé justement de cette détestation qu'elle a pu avoir, de ce rejet et puis de cette transformation. C'est extrêmement clair, extrêmement limpide, et c'est touchant parce que justement, il n'y a pas un effet de trop. Le seul petit reproche que je pourrais faire moi à la fin, c'est que peut-être un peu court, c'est-à-dire que je trouve que la résolution à la fin, l'amour qui apparaît, qui transparaît, est amené presque un peu trop rapidement. Le basculement, on se dit, bon, tout d'un coup, c'est un happy end, presque un peu trop rapide. C'est peut-être pas si simple que ça, mais c'est vraiment une petite note, parce que c'est un livre qui est cohérent, qui est construit comme ça. Et elle est comme ça, elle est carrée, comme ses canapés. On va pas au-delà, elle va pas lâcher prise quand même. Mais c'est justement parce qu'elle lâche pas prise que c'est pudique et que c'est beau à lire.
Donc, ah oui, pudique, c'est intéressant parce que c'est vraiment ça. Il y a quelque chose, il y a le personnage public qui est un personnage pudique et réciproquement. Et moi, j'étais très sensible à cette lecture aussi, comme vous. Moi, j'ai toujours, si je puis dire, soupçonné beaucoup de douceur chez Clémentine Autain. Bon, c'est peut-être. C'est un avis que ne semble pas partager Philippe.
J'ai pas dit que. Mais...
non, vous avez dit que psychorigidité et la douceur, ça semble un peu antinomique.
Psychorigide du point de vue politique, mais ça n'empêche pas d'être.
Non, mais comme dirait Laurent, ça veut dire qu'elle a des convictions. Voilà. C'est vrai que c'est. Ce qui est assez émouvant, c'est de suivre ce parcours. Et moi, il me semble que la fin n'est pas plus rapide que le reste. Ça va assez vite et ça n'a pas besoin de s'étaler. Et puis, c'est pas du tout le sentiment ou la couleur du livre que de se répandre. Il y a une énonciation de différents faits. Il y a des moments d'enquête, sans divulgâcher ce. Il y a deux pages avec Richard Kolinka, vous verrez pourquoi si vous lisez le livre de Clémentine Autain. Mais à chaque fois, ça va très vite. Moi, j'aime bien aussi la place qu'elle laisse à son père, Yvan Dautin, qui est quand même, qui évidemment dans le tableau, mais d'une façon là aussi...
Oui, c'est un petit point dans le tableau. Quand
même. Oui, mais il est là, et avec une façon de le mettre en scène qui est tout à fait, là encore, assez pudique et assez juste. C'est plutôt beau, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais très envie de... découvrir Dominique Lafin, parce que c'est fait partie des actrices qui ont été, vous l'avez dit, avec un parcours un peu de comète, mais qui a beaucoup marqué. Moi, je me souviens avoir vu effectivement ces films qui sortaient en salle. J'étais en âge déjà d'aller au cinéma, même. J'ai commencé tout petit.
Voir d'être amoureux d'elle, non ?
Peut-être. C'est pas tout à fait impossible, en tout cas. Oui, c'est une très belle femme. Non, et qui avait une présence à l'écran tout à fait particulière. Donc, moi, j'ai pas vraiment surpris, en fait. C'est ça qui me réjouit, c'est que ça confirme ce que je soupçonnais de Clémentine Autain. Grégoire Le Ménager ?
Oui, moi, non, ça ne m'a pas surpris non plus tellement. Je me trouvais qu'elle était psychorigide. J'ai trouvé qu'elle pouvait, elle pouvait exprimer une forme de dureté. Bon, enfin, on n'est pas là pour faire le portrait de Clémentine Autain, mais
avec ce livre.
Non, alors j'ai dit deux fois depuis le début de cette émission, comme l'a dit mon camarade Chevillier, oui, je suis d'accord avec lui et tout. Donc je vais arrêter. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Il n'y a pas de happy end dans ce livre. Et moi, c'est ça que je trouve assez miraculeux d'un point de vue littéraire. Je trouve que c'est là que ça devient autre chose qu'un document, autre chose qu'une juxtaposition d'anecdotes. C'est vraiment l'effet de construction du livre qui part de scènes qui on a l'impression de lire un livre qui va devenir un livre de règlement de compte quand même, parce que vraiment les scènes d'enfance qu'elle raconte, c'est des choses très dures. Enfin, il faut que sa mère l'abandonne la nuit, l'envoie à l'école pieds nus, la traîne encore une fois dans les bistrots le dimanche, se menace de sauter par la fenêtre. Enfin, elle a vécu une enfance assez cauchemardesque quand même. Et donc on a vraiment l'impression que ça va être un règlement de compte, et c'est vraiment insensiblement au fil du livre, de petite scène en petite scène, que la réconciliation s'opère. Et ce trajet de la haine, parce qu'il y a une forme de haine au départ, à la réconciliation, se fait insensiblement et fait que la fin n'est pas happy end. Ça a été amené très naturellement, et ça, j'ai été assez frappé par ça. Moi, j'ai rencontré Clémentine Autain à propos de ça. Elle me citait cette phrase de Marceline Laurie dans Ivins, qui résume absolument tout. Elle disait: il faut vieillir pour accéder aux pensées de ses parents. Et je trouve que le livre démontre ça, et du coup prend une forme d'universalité aussi, quel qu'ait été le rapport que vous avez eu avec votre propre mère. Ça fonctionne, on peut se retrouver dans ces
choses-là. Et d'ici une vingtaine d'années, la fille de Clémentine Autain, qui est très présente aussi dans ce livre, pourra lire le livre de sa maman. Philippe Chevillier, très rapidement.
Non, mais dans le terme de happy end, il ne fallait pas avoir autre chose que le fait de dire qu'il y a une forme de réconciliation et qu'on est soulagé. Que même moi, j'ai l'impression, c'est amusant, parce qu'après tout coup, quand je parlais de psychologie, j'ai l'impression de regarder différemment depuis quelque temps d'avoir Clémentine Autain, que je trouve plus mesurée, plus apaisée qu'avant. Donc c'est idiot, mais parce que c'est vraiment à la lecture du livre. Donc vous voyez, c'est ce sentiment-là. Et quand je disais trop court, je voulais pas qu'elle mette 50 pages. C'est juste une page ou deux qui aurait peut-être un peu ce moment où tout d'un coup le basculement aurait été encore un petit peu plus net, parce que je pense qu'il a été plus net dans sa vie. Mais c'est juste une réserve, parce que c'est quand même un beau livre.
Laurent Nunez, allez, très rapidement, pour conclure.
Ce basculement dans l'amour, en fait, il est déjà là initialement, mais il est créé par le récit, par l'art de faire le récit. C'est à force d'écrire qu'elle aime. Vous savez, on le sent à un moment, elle raconte à sa mère qu'elle a été violée, et elle raconte ce qu'elle a fait. Elle s'en est sauvée par l'écriture. C'est-à-dire qu'elle a changé le sujet de son mémoire. Ça devait être l'histoire coloniale, et elle a fait la défense des femmes. Il y a quelque chose, Clémentine Autain, qui est ça. À partir du moment où on raconte, on peut être sauvé. Et c'est normal qu'à la fin du livre, on la sente sauvée.
Dites-lui que je l'aime, c'est le titre de ce livre de Clémentine Autain, paru chez Grasset. Une séquence qui est celle du coup de cœur, le coup de cœur ce soir de Philippe Chevillier pour Dracula et autre récit, écrit pardon, vampirique aux bibliothèques de la Pléiade. Alors il y a moins de mères, mais il y a quand même Carmilla, donc la part féminine est présente. Philippe Chevillier.
Eh bien vous savez Arnaud qu'on ne peut pas craindre qu'un vampire ne pénètre dans le studio si on ne l'a pas invité expressément.
Hein. Absolument.
Alors en revanche, la Pléiade, ils l'ont invité. Et donc, c'est Alain Morvan qui est le complice de cette affaire, qui avait déjà sorti, donc, édité en, je pense que c'est en 2015, en 2014 ou en 2015, un volume sur les romans gothiques avec Frankenstein.
Formidable.
Et il revient avec ses écrits vampiriques. Donc, l'intérêt de la chose, d'abord, c'est de pouvoir relire Dracula, qui est quand même un roman extraordinaire, moi, je trouve, très long, mais c'est un roman vraiment terrifique, horrifique, polyphonique. C'était un peu la mode à l'époque, mais c'est la mode aussi aujourd'hui.
Terrifique, c'est vraiment français comme...
Non, justement, c'est pour ça que je suis passé à horrifique.
D'accord, terrifiant.
Oui, terrifiant. Okay. Mais j'aime bien le mot quand même.
C'est un barbare. Terrifique, allez.
Et donc on redécouvre ce roman, et on peut découvrir aussi ou redécouvrir le sublime et saphique roman Carmilla, hein, de Sheridan Le Fanu, et aussi un inédit, alors là pour le coup en France, qui est le sang des vampires de Florence Marryat, et ça s'appelle le sang des vampires, sauf qu'il n'y a pas de sang dedans, parce que c'est un vampire qui aspire la vie. Ouais. C'est un roman, plus qu'un côté dickensien, avec des personnages intéressants. Il y a le beau poème de Coleridge qui est aussi sa fille, qui est Christabel, quelques vers de Byron, le vampire de Polidori qui est né en même temps que Frankenstein. Alors là, pour le coup, il y a une belle parité quand même homme-femme des personnages, parce qu'il y a pratiquement autant de vampires masculins que féminins dans cette édition. Hein, je rappelle qu'elle était tout est traduit par Alain Morvan. Enfin, moi, le premier sentiment et le premier plaisir que je trouve, c'est un plaisir presque un plaisir romanesque de me replonger dans cette littérature gothique, puisque c'en est un prolongement, inspiré des ballades macabres allemandes et puis de la poésie des cimetières en Angleterre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il rend leur dignité, leur sinistre dignité aux vampires, dont les crocs se sont un peu émoussés avec les versions cinématographiques. Alors là, on est loin de Twilight, où les vampires mangent du tofu, où ils font des concours de beauté avec des loups-garous. C'est vraiment une créature effrayante, une créature maudite. Et alors on peut s'interroger pourquoi un tel succès, moi pourquoi j'aime tellement lire cette littérature. Et Alain Morvan donne une bonne explication, je pense, dans sa préface. D'abord, il y a l'inéluctabilité de la mort, parce que à force de nier la mort, d'essayer de, en fait, on découvre avec la vie du vrai vampire, du vampire terrifiant, que sa vie éternelle n'est pas du tout drôle et qu'il passe son temps à chasser des proies, à dormir dans des caisses pleines de terre. C'est vraiment pas drôle. Donc ça, on se dit vraiment qu'on a envie de mourir finalement et pas d'être un vampire. Et puis l'idée que ça réhabilite aussi la peur, et que, comme dit Alain Morvan, dans ce monde d'aujourd'hui, on essaie de l'éliminer, mais un monde sans peur est un monde qui fait peur. Et puis, c'est une métaphore inusable, hein, qui nous renvoie à la cruauté des tyrans, la peur des maladies, l'avidité des puissants, puisque même Karl Marx évoquait les vampires pour parler du capitalisme, la peur de l'autre, enfin bref, je crois que c'est une belle lecture cathartique et surtout un grand moment de poésie pendant 1000 pages.
Oui, formidable édition que ce Dracula et autres écrits vampiriques à la bibliothèque de la Pléiade.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire ce soir, c'est « Je ne sais rien d'elle » de Philippe Mézéscaz, publié aux éditions Marest. Alors moi, j'avoue que je ne savais rien de cet auteur avant d'ouvrir ce volume. On va en parler évidemment dans un moment. Le premier tour de table sur ce livre, Laurent Nunez.
La même histoire, trois fois racontée, puisque c'est un livre dans un livre, dans un film, dans un livre. Et on découvre toujours des choses neuves. C'est un auteur à retenir.
Philippe Chevillier.
Pour moi, c'est une magnifique mise en abîme littéraire, cinématographique et existentielle d'un douloureux mystère maternel.
La mère, encore la mère. Grégoire Le Ménager.
Je crois que c'est la preuve, et très, très, très bien écrite, qu'on ne se remet jamais complètement de son enfance.
Et cette fois, c'est Boris Pinault qui nous fait la lecture.
Pas très loin de la tombe, en ville, on tourne un film. Le scénario d'une histoire ancienne romancée. Une actrice incarne ma mère, un petit garçon, le petit garçon que je fus. C'est, dans ce moment, un abîme de mélancolie qui s'ouvre et, le dire quand même, pour elle et moi, le sens d'une revanche. La plaque est intacte, on dirait qu'elle vient d'être posée. La pierre polie est noire et luisante, sablée au pourtour du nom de ma mère, ce qui donne un effet de relief à l'inscription et l'illusion que les lettres ont été taillées dans du miroir. Je le redécouvre aujourd'hui. À l'époque, j'avais demandé au marbrier qu'il grave, après son prénom, d'abord le nom de mariage de ma mère, puis son nom polonais de naissance. Ma grand-mère avait tiqué. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Je bouleversais l'usage. En premier, on devait lire le patronyme de naissance, ensuite le nom d'épousé et en dessous ses dates. Mais elle n'avait pas insisté davantage. Elle m'avait laissé faire. J'étais le fils de la morte. La décision m'appartenait. Je savais que ma mère préférait entrer dans l'éternité avec son nom de mariage, plutôt que sous celui qui signait son origine et une jeunesse que tout au long de sa vie, elle n'avait eu de cesse de masquer.
Voilà, après La fille et la mère avec Clémentine Autain, Le fils et sa mère avec Philippe Médescaz, mais pas seulement, hein, effectivement, le film du livre, du film du livre, le livre du film, Laurent Nunez.
Oui, parce que
c'était vraiment le tout début hein, du texte qu'on vient d'entendre.
Oui, bah, c'est pas pour rien que c'est publié par Marest Éditeur, qui est un nouvel éditeur qui joue toujours entre la littérature et le cinéma.
Ah, ils ont un super catalogue déjà. Hein.
C'est pour ça, il faut qu'ils...
Et
forcément, donc, ce livre ne peut être publié que là-bas. L'histoire est à la fois simple et compliquée. Philippe Mézescave avait publié en 87 un premier livre qui s'appelait L'impureté d'Irène, qui racontait son histoire, l'histoire d'un enfant abandonné par sa mère et retrouvé par sa mère qui sort d'un hôpital psychiatrique et d'un enfant qui va vivre un été flamboyant avec sa mère, lui, sa grand-mère qui l'héberge toute l'année et un marin, une sorte de folle histoire d'amour, une sorte du marin de Gibraltar de Duras. Ça ressemblait beaucoup à ça. Je dis ça parce qu'évidemment ça se voit que Philippe Mézescave adore Duras. C'était un proche de Barthes, il était encore plus proche d'Hervé Guibert, qui a écrit un livre sur leur relation et Mézescave a lui-même écrit un livre qui s'appelle Deux garçons. Sur ça. Et dès l'impureté d'Irène, c'est ce qu'il raconte dans ce livre, on a voulu en faire un film. Ça ne s'est pas fait. Et ça s'est fait très dernièrement sous un autre titre qui est Du soleil dans mes yeux. Ce livre raconte comment un auteur qui a raconté sa propre histoire découvre tout d'un coup lors d'un tournage comment les autres s'approprient leur propre histoire et comment, en fait, lui-même peut s'approprier l'histoire que les autres ont eue de lui. C'est-à-dire que, d'un coup, c'est un texte très, très beau. C'est pas du tout compliqué. Là, ça a l'air un peu alambiqué.
Mais c'est parce que vous parlez.
Je pense. Et là, c'est pour ça. Je veux bien tout prendre si c'est pour décharger ce très beau livre. Il y a des pages admirables, notamment sur cet écrivain et Noah, qui est le petit garçon qui le joue, et qui endosse tout. C'est rare pour quelqu'un de voir sa vie défiler finalement. Et là, c'est ce qui se passe avec ce livre.
Ou alors, paraît-il, c'est à la fin, mais bon. C'est
à la fin. Et c'est tellement près qu'on peut plus rien changer. Là, ce qui est bien, c'est que c'est loin. C'est-à-dire, c'est loin de lui. C'est romancé, narrativisé. Mézescave peut s'éloigner de cette propre histoire en la re-racontant, et puis on découvre toujours. Et puis, on découvre toujours des choses neuves sur cette mère qui a eu des grands problèmes, qui n'a pas su élever un enfant, mais qu'un enfant aime encore et toujours.
Oh, mais c'est une belle figure d'amoureuse, hein. Oui. Philippe Mézescaz. Philippe Chevillet.
Alors moi j'étais totalement emballé, merci Laurent, par ce livre que je craignais au départ que ça soit justement parce qu'on mélangeait cinéma, littérature, souvenir, que ça soit un peu anecdotique ou un livre pour Happy Fuse, pour gens qui adorent l'auteur. Et moi je l'ai pris comme ça se lit comme un livre à suspense, à énigme, parce que par petites touches on arrive à recomposer, même si on connaît rien de l'auteur, même si on va même pas chercher sur sa vie, tout se révèle petit à petit de façon extraordinaire dans ce rapport toujours avec le cinéma, avec la littérature et dans les personnages. Il y a une scène très belle où justement ce petit garçon, toutes les scènes avec le petit garçon sont très belles parce que tout d'un coup on découvre qu'il y a aussi que chaque personnage du livre aussi a son mystère qui se révèle, aussi bien le cinéaste que le petit garçon. Et c'est un livre très humaniste, très universel. Et en forme de puzzle, on fait une traversée comme ça des apparences pour connaître la vie de cet homme et de cette femme, de cette mère qu'il a aimée. Et le plus beau, c'est qu'il va le plus loin possible, du coup, puisqu'il y a ses souvenirs, le livre et le film de ce personnage de mère et de son personnage à lui, mais on reste toujours au bord du mystère et le mystère reste entier sur tous les personnages. Donc moi, franchement, ça a été, en plus, c'est dans un style absolument magnifique, ça a été une révélation.
Grégoire Leménager sur Je ne sais rien d'elle.
Oui, merci Laurent. Effectivement, au départ, on s'en fiche un peu parce que moi, le film de Nicolas Giraud, je ne l'ai pas vu. Donc, savoir comment l'auteur des faits a vécu le tournage de ce film, ça m'intéresse assez peu. Et très très vite, c'est vrai que la qualité de son style, je crois, nous attrape, quoi. C'est-à-dire que quand il parle de sa mère comme d'une déception angoissante, quand il explique qu'il est resté le même enfant, un enfant vieilli, plus ou moins apaisé, il nous attrape comme ça. On sent qu'il a un rapport avec les lieux aussi de La Rochelle. Il éprouve pas vraiment de plaisir à se retrouver là. C'est très compliqué pour lui.
Il y vient pas. Hein.
On sent que
il doit y retourner en plus.
On sent que sa mère est un mystère extrêmement douloureux pour lui et qui tourne autour de ce mystère, quelque chose de très circulaire aussi dans son écriture, dans la construction des phrases, dans la construction de la narration. Enfin, à tous les niveaux, il y a quelque chose de très circulaire. Autour d'un trou noir, d'un mystère, d'un secret qui est douloureux, qui le renvoie à des souvenirs d'enfance qui sont pénibles, et tout ça est très d'une grande beauté, oui, c'est très émouvant, et on voit qu'il reste prisonnier de cette enfance là. Et où voulais-je en venir? Eh bien, je ne sais plus, avec cette histoire de construction circulaire.
Ben voilà, c'est la vôtre.
Mais
à propos de circularité, moi j'avoue que j'ai lu peut-être avec un peu plus de distance que vous à vous écouter, mais moi ce qui m'a vraiment passionné, c'est à quel point un auteur est vraiment le plus mal placé pour regarder et un tournage et un film adapté d'un de ses livres, parce qu'il me semble qu'il projette quantité de choses qui me semblent pour moi complètement construites par lui, et c'est ça que je trouve assez formidable. Je suis pas persuadé que ce qu'il nous raconte, et des moments du tournage et de sa façon, d'abord dans un premier temps de pas réussir à voir le film, puis après le voir trop, soit pertinente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point lui-même il y a un nouveau filtre encore qui est son regard sur le regard du regard, sur etc.
Mais lui-même le dit, ça. Enfin,
oui, il le dit. Mais en même temps, je pense qu'il est absolument aussi dans la bonne foi de la mauvaise foi, quelque chose comme ça.
À la limite, lui s'en fiche parce que
c'est intéressant.
Ce qui compte pour lui, c'est de tourner autour de ce mystère. Et finalement, ce qui est assez beau dans le livre, c'est le mouvement qui trace. C'est un peu comme pour Clémentine Autain, d'une certaine manière. C'est que il finit par se réconcilier avec sa mère parce que lui-même, il a endossé le secret, il a accepté le secret. Il y a des très belles formules où il dit qu'il est devenu un être de secret et que finalement, c'est là qu'il est le fils de sa mère et qu'il retisse une filiation.
Philippe Chevillet.
Oui, je voulais juste lire un petit passage.
Je vous en prie.
Je suis la somme de ce tout invisible à quoi s'ajoutent d'autres mystères plus heureux, mieux bénis et que j'ignore aussi. Les silences de ma mère sont les miens, je les ai reçus en héritage, je dois les préserver, ils sont un trésor sentimental que je sers et que j'épuise dans mes rêves et dans mes livres, un éparpillement de choses cachées, enfouies, sur lesquelles personne, pas même moi, ne peut justifier de sa propriété et qui ne seront pas découvertes, dont je n'aurai jamais la révélation.
Laurent Nunez.
Oui, on voit, il y a un portrait de femme là-dedans, de mère, d'amoureuse et tout, et c'est aussi c'est un portrait de lui, je ne sais rien d'elle, c'est évidemment je ne sais rien de moi, parce qu'on découvre dans ce livre, ce qui n'est pas dans les autres, c'est tout d'un coup une nouvelle enquête. Il apprend, il découvre lui-même un mystère qu'on peut révéler ici sur sa naissance, sur ses parents, et il se met à enquêter et voilà, et ça qui est vraiment très très beau. Moi j'ai été vraiment subjugué parce que vraiment c'est l'écriture, on sent que c'est quelqu'un qui tous ces livres sont courts, hein. C'est pas quelqu'un qui peut faire de la dans les 500 pages.
Il m'a paru dense, moi, pour le coup, pour prendre un mot de Grégoire Le Ménager.
Et c'est ça ce qui est étrange. On a l'impression pourtant que tout est dit. C'est vraiment quelqu'un quand je lisais, je pensais à une phrase de Gracq qui disait si vous saviez tout ce que je jette, vous admireriez tout ce que je garde. Et ben voilà, on sent qu'il a gardé le meilleur, une sorte de condensé de sa mère qui nous offre et à nous de nous faire le film de cette femme, de ce portrait de femme qui est assez éblouissant.
Je ne sais rien d'elle, c'est le titre de ce livre de Philippe Mézescaz, publié aux éditions Marest. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous rejoint comme chaque soir pour nous d'abord rappeler Dans un premier temps, la question du jeudi, il nous donnait sa réponse, Joséphine.
La question était: comment appelait-on au 19e siècle le quartier parisien privilégié de l'élite du mouvement romantique français? Et la réponse était la Nouvelle Athènes.
Ce soir, des DVD à gagner, des DVD du film Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica, qui avait obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes il y a 30 ans déjà, c'était 1989. Un DVD distribué par Carlotta. Quelle est la question, Joséphine?
Quelle ancienne star du rock en Yougoslavie est connue pour ses collaborations musicales avec le cinéaste Emir Kusturica?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Joséphine Dumoulin. La prise de son Ludovic Auger, la réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute spéciale présentée par Lucille Como. Elle aura lieu en direct et en public de la BNF site François Mitterrand dans le grand auditorium. Il faut bien ça. En ouverture du festival La Bibliothèque parlant de la BNF, l'invité vedette de cette émission, le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui sera exceptionnellement montré au public cette fin de semaine à la BNF. Lucille Como sera entourée par notre camarade François Angelier, l'universitaire Delphine Glaise, spécialiste de Victor Hugo, et les historiens de l'art et romancier Adrien Goetz. C'est une émission spéciale qui sera le prélude d'une grande soirée et même nuit Notre-Dame de Paris sur notre antenne, qui se poursuivra notamment par une lecture d'extraits de ce livre par Charles Berling, là encore en direct depuis la BNF.